Voilà donc un aperçu juste du Sénégal, la visite qu'on a faite. Alors, la WEC est dans, je ne sais même pas combien de pays, je crois 80, et on a 1800 collaborateurs, mais en fait rien qu'au Sénégal, on pourrait facilement recruter pour le sud, pour le nord, à court terme, à long terme. Mais ça, c'est juste un exemple, le Sénégal, mais on a des gens en Asie, en Amérique latine, etc. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, soit pour prier plus intensément pour le travail, ou alors pour partir à court ou long terme. Donc on peut toujours parler ensemble. On va passer maintenant à un temps d'écoute de la parole, et je vais demander à notre frère là de lire un texte dans Corinthiens qui sera la base du message.
Voilà, je vous le lis parce que c'est dans la traduction Parole vivante, c'est ça? 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 21. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs, à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde, mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Et si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que, dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu.
Merci. Il y a dans ce passage un verset archi connu pour certains. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et j'aimerais juste prendre, pendant ce court moment qu'on a ensemble, trois passages dans ces versets 14 à 21, donc 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Et je relis ce verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Et j'aimerais commencer par cette affirmation, ou deux affirmations. Dieu est radical. Il est radical dans le sens qu'il voit l'état de l'humanité, il voit qu'elle est perdue, et Dieu ne vient pas réparer, il ne vient pas améliorer, mais il veut un changement radical. Et on a ici ces mots qui sont dits, il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. Tout est devenu nouveau. Donc, il y a vraiment une radicalité en Dieu. Il ne veut pas réparer l'humanité, il veut changer l'humanité. Il ne veut pas améliorer notre cœur, il veut changer notre cœur. Et dans ce sens-là, si Dieu est radical, notre mission est radicale. Dans certains cas, il ne faut pas prendre des gants pour dire la vérité. L'homme est perdu, il faut un sauveur, il doit passer par une nouvelle naissance. Et cette vérité, elle est soulignée par bien des versets dans le Nouveau Testament, où par exemple, il est dit à un endroit dans le Nouveau Testament que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Hein? La puissance des ténèbres ou le royaume du Fils de son amour. Et dans Acte 26 aussi, quand Dieu s'adresse à Paul, il est dit que Paul est appelé à faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est des paroles radicales. Hein? Soit on est dans la puissance de Satan, soit on est dans les ténèbres, soit on est dans la lumière, on est à Dieu, on est en Dieu. Dieu est radical et notre mission est radicale. Et c'est vrai que ça ne plaît pas. Parfois, il y a des gens qui disent les évangéliques sont trop radicaux. Ben oui, c'est ainsi. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ce changement radical vise en premier lieu le caractère, la personnalité et le comportement. Ce changement radical doit avoir lieu dans notre cœur. Et j'ai noté là mon papier là, moi je me suis donné à Dieu le 19 septembre 1975. Et je suis parti à la réunion à vélo, mais j'étais encore dans les ténèbres. Je suis sorti de cette réunion et j'étais sur mon vélo et j'étais joyeux. Il s'est passé une transformation radicale. Et ce qui est intéressant, vous savez, mon vélo de course, je ne l'ai pas amené à la broyeuse pour que mon vélo soit transformé en acier de boîte à conserve. Vous voyez ? Donc, dans le sens, Dieu était intéressé par mon cœur. Il savait que le vélo, les courses de vélo, c'était mon idole. Mais il m'a permis de garder mon vélo. Bon, d'ailleurs, je me suis volé, d'ailleurs, j'ai regretté terriblement la selle Brooks en cuir que j'avais, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, Dieu est radical, mais il y a des choses qu'il va nous permettre de continuer de vivre, mais avec lui. Et ça, c'est important quand même de le souligner. Quand nous partageons l'évangile, quand Dieu veut nous communiquer sa vie, il veut qu'on prenne des décisions radicales, mais il ne veut pas qu'on soit tout à coup enfermé dans une boîte qui s'appelle chrétien, religion, etc. Un autre exemple, si je témoigne de l'évangile, si je communique l'évangile à un griot de l'ethnie des Mandingues qui joue de la kora, bon, il faut que je définisse trois termes là. Un griot, c'est un chanteur traditionnel en Afrique. C'est souvent une caste spéciale, les griots, les chanteurs traditionnels. Les Mandingues, c'est une ethnie très nombreuse en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, en Gambie, il y en a environ 2 millions. Et puis la kora, c'est un instrument de musique extraordinaire dont j'aimerais bien jouer ici, mais je ne sais pas jouer. Et puis c'était un peu encombrant, je me suis dit, je n'emmène pas celle que j'ai chez moi. Mais c'est un instrument extraordinaire. Mais si un griot Mandingue accepte l'évangile, c'est pas sûr que Dieu va lui dire tu renonces à ta kora maintenant, tu vas en faire des briquettes pour chauffer le thé. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette histoire d'ethnie mandingue avec les griots qui jouent de la kora, parce que pendant notre séjour au Sénégal, on a rencontré une collègue suisse-allemande qui aime beaucoup la musique. Elle joue de la guitare, elle joue du piano, etc. Et puis quand on a fait cette visite au Sénégal, ça fait longtemps qu'on connaît cette collègue, on l'avait entendue jouer de la kora, etc. Elle nous a raconté comment ça s'est passé, quel impact elle a eu en Afrique en jouant de la kora. Et c'était assez extraordinaire, parce qu'en fait, les mandingues, ils pensent que la tête de la femme est trop petite pour pouvoir jouer de la kora. Parce que ce n'est que les hommes qui jouent de la kora. Donc, vous voyez, à quelque part, il fallait que les gens comprennent, oui, que la kora peut être jouée par tous et qu'elle peut aussi être un instrument pour glorifier Dieu. Parce que souvent, la kora et ses griots, ils chantent les louanges des hommes, etc. Mais là, elle a utilisé cet instrument pour louer le Seigneur. Ah, il a une photo de la kora. Oui, c'est ça, ouais, tu peux même faire passer si tu veux. En tout cas, c'est un instrument très intéressant. Mais vous voyez, si un griot mandingue se convertit, peut-être qu'il devra donner sa kora au Seigneur, peut-être qu'il va devoir y renoncer pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Mais ce que Dieu veut, c'est aussi racheter des cultures, que ces instruments qui étaient utilisés juste pour louer les hommes soient transformés, soient là à la louange de Dieu. C'est intéressant parce que dans son témoignage, Elfie, c'est son nom, elle dit qu'en fait, elle a toujours chanté la parole de Dieu. Elle n'a jamais chanté des louanges des hommes, vous voyez. Et quand elle était à la radio, parce qu'elle a aussi été interviewée parce qu'elle jouait de la cora, elle chantait les psaumes de David. Et les gens étaient tellement touchés, les musulmans étaient touchés d'entendre une femme, une blanche, chanter la parole de Dieu. Et ça lui a ouvert des portes extraordinaires. Et jusqu'à présent, il y a des portes qui lui sont ouvertes. Donc, Dieu est radical. Il veut des changements radicaux. Mais il y a aussi des choses qu'il prend, qu'il va transformer par sa puissance. Moi, je suis toujours content de faire du vélo, vous voyez, parce que comme je suis au bureau, alors des fois, il faut dérouiller un peu les jambes, surtout à mon âge. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est un homme nouveau, l'ancien est dépassé. Il y a une radicalité. Un autre passage que j'aimerais voir dans ce qu'on a lu, c'est 2 Corinthiens 5, 18, 19. 2 Corinthiens 5, 18, 19 dit « Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. » Dans ce passage qui nous a été lu, il y a 5 fois le mot « réconcilier ». Alors, un petit rappel, c'est toujours bien de retourner au Larousse, signification du mot. « Réconcilier » veut dire « ramener des personnes à la bonne entente, rétablir entre elles des relations amicales ». Et il me semble que quand je regarde le grec et les explications qui sont données au sujet de ce mot, c'est pas seulement une réconciliation comme on l'entend facilement s'il y a un problème, on est ensemble, mais c'est une restauration. Il y a cette connotation de restauration de ce mot « réconcilier ». On est changé mutuellement. Et là, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples du Nouveau Testament où on voit qu'il y a vraiment un conflit, l'homme est en conflit avec Dieu, l'homme est en conflit avec lui-même, avec les autres, en conflit même avec la création. On voit qu'il y a un conflit. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament aime aussi souligner cette importance de la réconciliation. Dans l'Épître aux Romains, par exemple, il est dit que nous étions ennemis de Dieu, nous étions étrangers. Et puis que Éphésiens 2 nous parle d'un mur qui séparait les gens, qui séparait les juifs et les non-juifs. Et on peut aussi se souvenir de cette parabole du fils prodigue. On appelle ça la parabole du fils prodigue, mais j'aime pas du tout ce titre. Il est aussi question de réconciliation dans cette parabole, mais en fait c'est la parabole du père admirable qui a 2 fils perdus. Il y a le fils perdu qui prend l'héritage, qui s'en va, puis qui finit avec les cochons. Puis il y a le fils perdu qui est à la maison, qui sert son père comme un esclave. C'est ça littéralement qui est dit. Donc il y a le père admirable qui a 2 fils perdus. Et on voit qu'il y en a un qui se réconcilie avec son père, hein, celui qui revient après. Il y a réconciliation. Il retrouve la joie. Le problème, c'est que le fils aîné, là, on ne sait pas s'il est réconcilié. On voit qu'il est fâché avec son père, fâché avec son frère qui est parti avec l'héritage. Mais il y a cette parabole qui montre cette force, cette puissance de la réconciliation. Combien c'est nécessaire aussi, quand je vois certaines familles, certaines relations, père-fils, il y aurait tellement besoin aussi de réconciliation. Réconcilier. Et on peut se poser cette question, suis-je réconcilié avec Dieu? Suis-je réconcilié avec moi-même? Parce que des fois, on est fâché contre soi, on est toujours en train de se dire, je suis nul, etc., on pleure. Suis-je réconcilié avec ceux qui sont autour de moi? Ça, c'est la première question. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Mais une question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis un agent de réconciliation? Est-ce que je suis un porteur de réconciliation? Parce que c'est bien ça à quoi nous sommes appelés. Et Paul, dans ce passage, il dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, il nous appelle nous-mêmes à être des ministres de réconciliation, des porteurs de réconciliation. Ça, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai été confronté à des situations où j'aurais aimé voir la réconciliation entre moi et certaines personnes, ou entre certaines personnes. Des fois, c'est vraiment très compliqué, quoi. Mais nous sommes néanmoins ministres de la réconciliation. Dans le passé, dans les milieux chrétiens, on parlait de cure d'âme. C'est-à-dire quand on voulait soigner quelqu'un qui était un peu déprimé comme ça, on faisait de la cure d'âme. Donc les pasteurs faisaient des visites dans les foyers, faisaient de la cure d'âme. Puis ça, les gens n'aimaient plus trop le terme parce que l'homme, ce n'est pas juste une âme, c'est aussi, il y a un corps, etc. C'est plus qu'une âme. Et puis après, on a parlé de relation d'aide. Hein, on est dans une relation d'aide. Le pasteur va retrouver les gens, puis il est dans une relation qui doit aider. Mais ce qui est intéressant, c'est que Maurice Ray, vous connaissez Maurice Ray ? Si vous trouvez ses livres d'occasion, il faut les acheter, c'est super bon. Et il a écrit une théologie pastorale en 5 volumes. Et puis un des volumes de sa théologie pastorale porte le titre « Pour que nous soyons réconciliés ». Donc en fait, il n'a pas donné comme titre à ce livre « La cure d'âme » ou « La relation d'aide ». Il a donné comme titre « Pour que nous soyons réconciliés ». Et il dit, Maurice Ray, que le but du ministère de la réconciliation est de rendre aux hommes la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Rendre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il y a tellement de gens qui sont liés. Ils sont comme dans une camisole de force. Et en fait, ils ont besoin de libération. Et quand je pense à certaines situations... c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un ministère de réconciliation, que les gens soient réconciliés avec eux-mêmes, avec les autres, avec Dieu surtout, mais qu'ils soient vraiment libérés. Et c'est ça le ministère de la réconciliation, rendre aux hommes la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Voyez-moi, si je n'étais pas chrétien avant le 19 septembre 1975, c'est parce que j'avais peur que Dieu me mette dans une camisole de force. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Alors que ce jour-là, j'ai compris que Dieu me libérait. Il me libérait vraiment. Il faut que je me dépêche là. On termine par un autre extrait, d'autres versets qui se trouvent là dans ce passage. 2 Corinthiens 5, 14 et 19, 20. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. Et à partir du verset 19, c'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargé de proclamer publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce passage pose la question, est-ce que nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné ? D'autres traductions disent « l'amour de Christ nous presse ». Est-ce que ça nous presse ? Est-ce qu'on a envie de parler de Dieu ? Moi, vous voyez, je ne suis pas trop bavard. Quand il s'agit de la foi, j'hésite des fois, pas mal, trop. Mais c'est vrai qu'il faut que l'amour de Christ en nous, nous pousse, nous presse pour parler de ce qu'on vit avec Dieu, jour après jour. Est-ce que nous sommes entrés dans ce ministère de la réconciliation ? Sommes-nous ambassadeurs de cette réconciliation ? Et est-ce que nous avons cette approche globale, la réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et même avec la création ? Ça, c'est un grand sujet, mais en tout cas, c'est mentionné aussi dans le Nouveau Testament. On n'est pas tous appelés à aller loin, au Sénégal ou au Bangladesh, mais on est tous appelés à être des appuis pour cette mission, ce ministère de réconciliation qui doit se passer ici et au loin. Et quand je pense à cette histoire de ce garçon-là, qui était dans la rue avant, il mendiait dans la rue, il dormait dans la rue, il était un voyou dans la rue, et il a été recueilli par un couple qui avait cette vision de sauver ses enfants qui se perdaient. Et un verset qu'ils citent souvent dans leurs nouvelles, c'est Proverbe 24 qui dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les ». Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas chacun selon ses œuvres ? Et ce couple-là, Rosimara et Kazibo, ils ont vraiment ça comme leitmotiv pour leur ministère. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ils voient ces enfants dans la rue. Et ce qui est pratique, c'est que Kazibo, il est haïtien, donc il est noir. Donc vous voyez, quand un noir s'adresse à un enfant noir dans la rue, c'est pas suspect. Parce que quand c'est les blancs, ça peut être délicat. Donc lui, il parle avec les enfants, puis il voit comment est-ce qu'il pourrait le recueillir. Et il les recueille à plein temps. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu entres dans la famille. Et ce garçon-là, imaginez, bon, c'est pas lui, hein. Mais il était dans la rue, et après, il a commencé à être alphabétisé dans le cadre de cette maison. Et maintenant, il veut faire avocat pour défendre les pauvres, ceux qui sont maltraités. C'est extraordinaire. Et puis, Ursula vous a parlé de cet infirmier qui maintenant veut continuer sa formation d'infirmier. Il a un tel feeling pour les gens. Vous voyez, Biram, c'est intéressant parce que ce gars qui fait les études de droit, il est plutôt toujours dans les bouquins. Et l'autre, il est tellement dans les relations. Quand vous le voyez soigner un enfant, il est tellement doué dans le relationnel que les enfants commencent vont peut-être pleurer, mais après ils vont s'arrêter parce qu'il sait comment consoler. Et c'est vraiment merveilleux de voir comment ces enfants qui étaient finalement liés à tous les vices qu'on trouve dans la rue ont bénéficié de ce ministère de réconciliation de Rosimara et Kazibo, et maintenant ils sont vraiment dans une vie nouvelle. Il n'y a plus de comparaison possible entre l'enfant de la rue et ces jeunes-là qui ont maintenant 20, 25 ans. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il y a encore tellement de gens qui sont perdus, liés par des fausses images de Dieu. Tellement. C'est pour ça que c'est important que nous exercions ce ministère de réconciliation pour que les gens soient délivrés. On dit aujourd'hui, et c'est ma dernière parole, il y aurait 4900 ethnies dans le monde, soit à peu près 900 millions de personnes, où il n'y a en ce moment aucun travail d'implantation d'église. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer et persévérer. Je vais m'arrêter là, je vais prier. Seigneur Dieu, merci parce que c'est toi qui nous appelles à être délivrés, libérés. Merci parce que tu ne veux pas nous mettre sur nous une chape de plomb, des tas de lois, des tas de règles à suivre, même s'il y en a. Mais tu veux nous libérer pour que nous puissions naturellement, du plus profond de nos cœurs, suivre ta bonne loi, tes bons préceptes, tes bonnes directions. Seigneur, je te remercie pour ce ministère de réconciliation que tu confies à l'Église. Seigneur, donne-nous d'être fidèles dans cette diffusion de la bonne nouvelle, de la libération que tu donnes. Amen.